D'une rencontre à l'autre, c'est un peu la thématique de notre culte de ce matin. Avec un point commun d'ailleurs, alors j'espère ne pas spoiler la fin de l'histoire, mais la Samaritaine, à la fin, va aller à la rencontre d'autres pour justement lui parler de ce qui lui était arrivé. Et ça fait le lien avec le deuxième pan de notre vision que nous méditons depuis le début du mois d'octobre. Une foi qui rayonne. Nous voulons, en tant qu'Église, rayonner. C'était le thème du message du tout début du mois, avec, vous vous rappelez peut-être, l'exemple de l'Église d'Antioche, qui avait tellement impacté son environnement que les habitants d'Antioche avaient fini par donner un nouveau nom à ce groupe, les Petits Christ, ou les Chrétiens, si vous préférez, ceux qui veulent suivre Jésus. Et suite à cela, on avait commencé à réfléchir comment nous aussi, nous pourrions influencer de l'environnement dans lequel nous sommes. Et la semaine dernière, je n'étais pas là, mais j'ai cru comprendre que Fabrice nous a encouragés dans notre témoignage personnel, au travail, à la maison, avec les amis. Nous voulons être aussi ces flambeaux qui brillent au milieu de ceux et celles que Dieu a mis autour de nous. L'Église rassemblée, c'était le premier mode de témoignage. L'Église dispersée, quand on est chacun dans notre quotidien, c'est un peu le second mode de témoignage sur lequel on s'est attardé. Et ce matin, comme troisième volet, j'aimerais qu'on puisse s'encourager face à la difficulté du témoignage. Aussi bien d'ailleurs quand on est rassemblés tous ensemble que quand on est chacun dans notre quotidien. Car dans un cas comme dans l'autre, nous sommes régulièrement confrontés au scepticisme de nos interlocuteurs. Qu'est-ce que votre Jésus peut m'apporter? S'il y avait un bon Dieu, ça se saurait. Comment savoir que ce que tu dis est vrai? Que la foi chrétienne, c'est le chemin? C'est souvent le genre de réaction auquel on se confronte hein, quand on commence à vouloir parler de cette vie en nous que nous avons médité pendant cette première partie. Alors pour nous encourager dans ce défi, je vous propose donc de méditer sur une autre rencontre, toujours dans l'évangile de Jean, un peu plus tôt, au chapitre 1, et nous lirons les versets 40 à 51. Jean 1, versets 40 à 51. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, donc Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas ». Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph ». Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et lui dit « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Jusque-là, la lecture ce matin. tout commence plutôt bien. On est au début de l'évangile de Jean et Jean-Baptiste vient de rendre ce témoignage à propos de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et certains des disciples de Jean-Baptiste, notamment André, commencent à suivre ce nouveau maître, Jésus. André, puis Pierre, puis Philippe, et on a l'impression d'une simplicité déconcertante. Sur la base des témoignages des uns et des autres, chacun se met en route, se met à suivre Jésus. C'est beau, hein ? Ça a l'air tellement facile, tellement simple. On aimerait que les choses soient toujours comme ça. Mais bien sûr, nous savons qu'elles ne le sont pas toujours, que tout n'est pas aussi simple. Parce que nous ne sommes pas aussi simples que ça, en tout cas pas moi. Des André, des Philippe, j'en ai rencontré. J'ai entendu pour la première fois l'Évangile aussi, à un moment donné, mais 3 ans après, j'étais toujours en prise avec mon scepticisme. Je n'ai pas suivi comme André et Pierre, juste à une parole, comme ce début de l'Évangile de Jean semble nous le montrer. Mais rassurons-nous, entre guillemets, l'Évangile nous parle de choses qui nous sont bien palpables, et le sceptique arrive. Au verset 45, l'exception, Nathanaël. Philippe rencontre Nathanaël. Il rend témoignage de Jésus. Il souligne que c'est celui dont on parle dans les Écritures, dont Moïse parle, dont les prophètes parlent. Toutes les Écritures parlent de ce Messie. Et Philippe dit à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui dont les Écritures parlent. » Mais le témoignage de Nathanaël va se heurter à une réplique cinglante. « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Franchement, tu crois cela, toi ? Si Jésus pouvait changer quoi que ce soit, ça se saurait, non ? Et puis, avec tout ce qu'on entend sur la religion, on est mieux sans tout ça. Des répliques sceptiques qui font écho à ce que nous pouvons rencontrer quand elles ne se limitent pas juste à un sourire condescendant. Pour Nathanaël, le fait que Jésus vienne de Nazareth, ça ne peut pas coller. Pourquoi ? Alors on ne peut faire qu'émettre des hypothèses. Peut-être que la réputation de Nazareth était proverbiale. Et les Nazaréens ne s'illustreront pas de la meilleure des manières. Un peu plus loin, ce sont ceux qui ont voulu propulser Jésus du haut d'une falaise parce qu'ils étaient irrités par ses paroles. Est-ce que c'était un caractère propre des gens de Nazareth qui étaient bien connus de la région ? Ou alors peut-être il y a une rivalité entre Cana, petit village d'où vient Nathanaël, et Nazareth, ce sont des voisins. Vous savez, un peu comme il peut y avoir une rivalité entre Barinois et Aurinois, entre Marseillais et Parisiens. Quoi ? Jésus ? Le Messie ? Il viendrait du Haut-Rhin ? Laisse-moi rigoler. Ou alors, plus théologiquement, c'est le fait que Nazareth était une petite bourgade sans importance dont il n'était pas question, justement, dans les Écritures. Improbable que le Messie puisse venir de là. Quoi qu'il en soit, et on le voit bien, nos scepticismes peuvent être animés de tout un tas de raisons, les meilleures comme les pires. Pour Nathanaël, ça ne semble pas coller. Mais face à l'incrédulité de son ami, Philippe ne se laisse pas démonter. Il ne se laisse d'ailleurs pas entraîner, comme on le ferait peut-être si souvent dans un débat d'idées. Il lui donne la seule réponse qui puisse mettre Nathanaël en marche. Viens et vois. Viens et vois par toi-même qui est ce Jésus. La meilleure réponse aux questions sceptiques, c'est la réponse que Jésus apportera lui-même. Alors bien sûr, on joue un rôle, sans doute celui d'ouvrir le chemin. Mais la preuve que Jésus est le Christ, qu'il est ce dont nous avons le plus besoin, c'est Jésus lui-même qui la donnera. Viens et vois. vient et voit à un premier avantage. Il permet de mesurer la soif véritable. Et en ce sens, Nathanaël se distingue de pas mal de sceptiques contemporains. Oui, il n'est pas vraiment convaincu que ce Jésus de Nazareth soit le Messie. Mais si c'était le cas, il ne voudrait surtout pas passer à côté. Alors il ne discutaille pas pour discutailler, il veut savoir réellement. Il suit Philippe et vient à la rencontre de Jésus. Et notre dialogue se poursuit. Jésus accueille Nathanaël de la manière la plus agréable qui soit. En le voyant, il dit « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » On aimerait être accueilli comme ça hein, dans nos discussions. Toi, je te crois sincère, hein, vraiment. Beaucoup auraient apprécié le compliment, mais pas Nathanaël, le méfiant. Est-ce que Jésus se la joue commercial en cherchant à le gagner à sa cause? Est-ce que c'est comme ça que Philippe, André sont tombés dans le panneau? À lui, on ne la lui fera pas. Nathanaël ne veut pas être séduit, il veut être convaincu. Alors il ne se laisse pas amadouer et réplique un peu sèchement « C'est bien gentil tout ça, mais d'où est-ce que tu me connais? Qu'est-ce qui t'amène à dire cela de moi ?» Et c'est donc là où vient et voit un second avantage. Débattre d'arguments, c'est bien souvent rester sur nos positions, notre zone de confort. D'ailleurs, vous vous rappelez dans un autre domaine de la foi, la dernière fois où après une discussion vous avez un avis tout à fait contraire au début de la discussion, vous vous êtes exclamé à la fin « Ah ben maintenant je suis convaincu !» Alors moi ça m'arrive quasiment jamais. Hein. Il faut qu'il se passe d'autres choses pour qu'on change d'avis. Une discussion, généralement, on veut juste défendre notre beefsteak, montrer que nous aussi, on sait et qu'on a raison. Je ne dis pas que les discussions n'ont pas d'intérêt, mais soyons conscients, soyons clairvoyants, elles n'ont pas de résultat immédiat la plupart du temps. Elles nous offrent un autre horizon, mais il va nous falloir cheminer, expérimenter. Dans notre manière chrétienne de voir les choses, il va falloir qu'un autre soit à l'œuvre et qu'il parle au cœur, là où nous ne pouvons pas parler. Viens et vois, c'est venir directement à la source. Car Jésus n'est pas un flatteur, il n'est pas un homme politique en campagne. S'il dit que Nathanaël est un homme intègre et droit, c'est parce qu'il connaît Nathanaël, mieux que Nathanaël d'ailleurs ne se connaît lui-même. Et il prononce cette petite phrase qui va faire tout basculer. « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Petite phrase que Philippe, avant, aurait été incapable de prononcer, enfin, quoique si, puisque c'est lui qui l'a appelé. Mais il ne savait sans doute pas ce qu'il faisait sous le figuier et à quel point cette phrase marquerait Nathanaël. Petite phrase qui touche au cœur, sans qu'on arrive à vraiment comprendre pourquoi Nathanaël, qui le chamboule. La seule chose que l'on peut constater, c'est l'électrochoc qu'elle produit. On ne peut pas expliquer pourquoi, mais là aussi, on peut quand même échafauder quelques hypothèses. Le figuier, nous disent les commentateurs, c'est l'endroit où l'on étudiait les Écritures. Un peu l'équivalent de notre café Bible le matin avant de partir au travail. Est-ce que c'est parce que Nathanaël était justement en train de méditer les Écritures et le lieu d'où devait venir le Messie, Bethléem plutôt que Nazareth, qu'il est touché en plein cœur par cette phrase de Jésus? On ne pourra pas le dire avec certitude, c'est plausible. Mais par contre, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons être comme soulagés. Ce n'est pas nous qui allons toucher, transformer le scepticisme des cœurs. Laissons cela à Jésus. Laissons Jésus lui-même s'occuper du scepticisme de ceux qui nous entourent. Car celui qui vient vraiment chercher en venant à Jésus trouvera en Jésus ce qu'il est venu chercher. Et pour le coup, le revirement de Nathanaël est tout simplement prodigieux. Virage à 180 degrés. Il passe de « qu'est-ce qu'il peut sortir de bon de Nazareth ?» à « tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël !» Du scepticisme à la confession de foi en un temps record. Même si, bien sûr, Nathanaël est un sceptique d'un genre particulier, cela nous encourage. Derrière les railleries de nos contemporains se cache une autre réalité. Nos contemporains, comme nous-mêmes, nous avons en fait soif de bien plus que de simples réponses à nos questions, comme ça, tout d'un coup, existentielles, ou en tout cas, où on aimerait comprendre. Jésus seul est cette source qui peut justement répondre à ce besoin plus profond. Et la conversation n'est pas terminée. Il se passe quelque chose qu'il ne faudrait pas rater. C'est marrant. Après ce revirement, c'est comme si Jésus rabrouait gentiment Nathanaël. « Parce que je t'ai dit que tu étais sous le figuier, tu crois ?» Il a touché au cœur. Pourquoi il l'embête avec ça? C'est un peu comme s'il lui disait « Bon, il y a 2 secondes, tu étais sceptique, et maintenant tu es le plus enthousiaste qui soit. Est-ce que ton enthousiasme est fondé sur la réalité, sur ce que je suis vraiment ?» Si le sceptique a le défaut du cynisme, de l'incrédulité, le sentimentaliste, lui, a le défaut de son enthousiasme. Toujours prêt à foncer, même si ce n'est pas dans la bonne direction. Et le problème, c'est qu'on peut se tromper de Dieu. On peut enfermer Dieu dans notre petite boîte à nous avec ce genre de fonctionnement. Et c'est comme si Jésus voulait préciser à Nathanaël, « Laisse-moi encore t'étonner. » Continue de te poser des questions. Doute encore un peu parce que tu n'es pas encore arrivé. Et pour faire comprendre cela, c'est alors que Jésus fait appel à une vision énigmatique, celle d'un ciel ouvert avec des anges qui montent et qui descendent. Est-ce que cette vision vous rappelle quelque chose ? L'échelle de Jacob, tout à fait. Le rêve de Jacob lors de sa fuite devant Ésaü. Un moment où Dieu parle à Jacob pour l'encourager, alors qu'il est comme banni parce qu'il vient de trahir sa famille. Dieu veut le rassurer. Même si Jacob ne le voit pas, Dieu continue de prendre soin de lui avec ses anges qui invisiblement montent et font le lien entre ce qui se passe dans le ciel et sur la terre. Mais étonnamment, ici, ce n'est plus une échelle qui assure la liaison entre le ciel et la terre. C'est le Fils de l'homme. C'est Jésus lui-même. On peut presque entendre Jésus rire affectueusement quand il reprend Nathanaël. Tu penses maintenant que je suis le Messie ? Alors tu penses probablement que je vais monter sur mon cheval et venir bouter hors de Judée l'envahisseur romain. Mais je ne vais pas faire cela. Je vais faire bien plus encore. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai commencé à réconcilier le ciel et la terre et bientôt tu pourras vivre directement la présence de Dieu pour répondre à tous tes besoins, à toutes tes questions. La plupart des personnes, et nous les premiers, on est venus à Jésus pour un besoin précis. Peut-être que Jésus m'aide dans ce problème particulier à devenir une meilleure personne. Moi, je suis venu à Jésus parce que je trichais aux examens. J'avais cette conviction de péché et j'avais besoin qu'on me sorte de là. La plupart du temps, nous ne venons pas à Jésus pour la bonne raison. ou en tout cas, il ne faudrait pas qu'on se contente de cette raison. Parce que nous ne sommes pas conscients des besoins profonds que nous avons. Et la bonne nouvelle ce matin, pour nous-mêmes comme pour les sceptiques, c'est que Jésus apportera toujours infiniment plus, infiniment mieux que ce que nous recherchons. Il dépassera toujours nos attentes, car en fait, il a bien plus à donner que ce que nous recherchons. Il a bien plus à donner qu'une réponse à une question sceptique. Alors, comment apprendre de Jésus pour grandir dans notre témoignage? Je vous propose 5 réflexions pour ne pas nous décourager face au scepticisme que nous rencontrons si souvent. Première réflexion, première piste d'application. Pas besoin de tout savoir avant de parler de notre foi. En fait, nous n'aurons jamais toutes les réponses aux questions sceptiques qu'on ne manquera pas de nous poser. Et notre rôle premier, ce n'est pas d'être un docteur en théologie, c'est d'être un témoin. Je suis frappé de voir les disciples, André, Pierre, qui à ce moment-là n'en savaient pas beaucoup sur Jésus. On est tout au début du ministère de Jésus. Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, il n'avait pas encore accompli l'essentiel du salut. Et pourtant, ils sont déjà en route à inviter ceux qu'ils rencontraient à venir à Jésus. Notre rôle, c'est d'être témoin. Pas besoin d'avoir tout compris pour parler de notre foi. On pourrait même dire que Philippe n'a pas su répondre à la question qu'on lui posait. Que peut-il venir de bon de Nazareth? On ne sait même pas s'il a essayé d'y répondre. En fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que nous n'ayons pas toutes les réponses. Car nous ne jouons pas au concours de qui a raison. Nous n'avons pas toutes les réponses. Nous connaissons celui qui a les réponses. C'est tout différent. C'est tout différent. Et n'oublions pas que derrière la question du sceptique, il y a la question, l'autre question. La question plus émotionnelle, plus affective, qui est souvent derrière celle qu'on est en train de nous poser et que nous ne savons pas discerner parce qu'on ne connaît pas les failles et les blessures de ceux à qui nous parlons. Nous n'avons pas toutes les réponses, et en fait, je crois que c'est préférable. Car le plus grand danger, c'est finalement de répondre à la question et d'oublier de dire « viens et vois ». Alors, et c'est mon deuxième point, ma deuxième piste d'application, vous allez me dire « bah oui, mais comment on fait pour dire « viens et vois » aujourd'hui ? Il n'y a plus de lieu où on peut avoir un face-à-face avec Jésus comme Nathanaël dans notre passage. Alors voici quelques pistes pour inviter à venir et voir Jésus aujourd'hui. Première piste, peut-être proposer à la personne de poser directement sa question à Jésus. Si tu veux vraiment qu'il t'apporte une réponse, mais tu sais, tu peux lui poser la question. Sois pas trop carré avec la manière dont tu voudrais qu'il te réponde, mais pose-lui ta question. Celui qui cherche trouvera, nous dit la Bible. On peut aussi lui proposer de lire avec lui une partie de la Bible, afin qu'il voie par lui-même ce que Jésus dit. J'ai commencé comme ça. Lire la Bible pour pouvoir dire pourquoi je ne croyais pas. Ça n'a pas été très efficace pour moi. On peut aussi proposer de venir et voir le corps de Christ, l'Église, une soirée entre amis à la maison avec d'autres chrétiens, une soirée spéciale à l'Église, un film, un concert, un groupe de jeunes dédié aux questions que se posent nos amis au lycée, à la fac. Dire « viens et vois » aux sceptiques, c'est encore possible aujourd'hui. La réponse à nos invitations ne sera pas forcément positive. Mais notre invitation sera un bon test, comme dans notre passage, pour révéler la véritable soif d'avoir une réponse de notre interlocuteur. D'ailleurs, et c'est mon troisième point d'application, ne soyons pas frustrés quand nos discussions nos invitations semblent stériles. Notre rôle, c'est celui-là, expert en démolition de préjugés. On ne va pas convertir les gens. La seule chose qu'on peut faire, c'est enlever, alors là, j'ai pris le burin, mais on va être plus doux, hein, enlever pierre après pierre de toutes les fausses idées que les gens peuvent avoir sur ce que c'est que la foi chrétienne. C'est pour cela qu'il faut du temps, de la patience. Ne pas se fier à ce que nos yeux voient, qui est souvent décourageant. Un autre est à l'œuvre. C'est lui qui veut attirer en définitive cette personne. Comme dit le chant, ce ne sont pas nos faibles mots qui pourront exprimer toute la puissance de Jésus. Nous ne faisons que préparer le terrain. C'est Jésus qui, par une circonstance particulière, une parole comme « quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu », quelque chose qu'on est incapable par nous-mêmes de produire, qui mettra le cœur à nu. Il l'a fait pour Nathanaël et il l'a fait pour nous aussi. Alors comprenez-moi bien, et c'est ma quatrième piste, ce n'est pas parce que Dieu a tout fait qu'il ne faut rien faire. Moi aussi, je fais appel à vos peut-être réminiscences des années 90. Ça, c'était une pub pour un célèbre plat cuisiné. C'est pas parce que Marie a tout fait qu'il ne faut rien faire. C'est justement pour enlever les préjugés qu'avoir des pistes de réponse à certaines questions sont utiles. Si Dieu existe, pourquoi le mal ? La foi et la science sont-elles compatibles ? Comment savoir que le Dieu de la Bible dit vrai ? On est appelé à progresser sur ces questions pour avoir des pistes de réponse. Et bonne nouvelle, début 2022, ce sera un des thèmes justement de Bouge ta Bible. Mais ne nous y trompons pas. En fait, ces grandes questions, elles sont surtout importantes pour nous. Pour qu'elles renforcent notre foi. Pour qu'elles renforcent et développent notre vision de Dieu. En fait, en creusant ces questions pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va démontrer à notre interlocuteur sceptique qu'il y a aussi une graine de scepticisme en nous. Que nous aussi, on s'est posé ces questions, que nous aussi, on doute que notre foi, ce n'est pas juste de la tradition, mais c'est quelque chose qui nous interpelle et qu'on a voulu creuser et chercher. Et c'est ça qui fera le pont avec notre auditeur. C'est ça qui l'amènera certainement à vouloir faire le pas d'après. Enfin, dernière piste d'application, apprendre que Jésus ne veut pas juste répondre à nos questions. Il veut faire bien plus que ce que nous attendons de lui. Tout comme Nathanaël dans notre passage, nos contemporains n'attendent souvent pas suffisamment de Jésus. Et c'est là le problème. Ils aimeraient que Jésus leur permette de trouver un travail, qu'il transforme leur couple, leur famille qui bat de l'aile. Ils aimeraient la guérison à cette maladie, des réponses aux épreuves qu'ils traversent. Et bien sûr, Jésus peut faire tout cela. Mais en fait, il veut faire bien plus. Il veut faire le lien entre le ciel et la terre. C'est seulement en étant enthousiaste, et ça nous prépare à notre prochaine thématique du mois de novembre, seulement en étant enthousiaste devant cette vision du Messie qui ne veut pas juste rafistoler nos vies déchirées, mais qui veut nous ouvrir la voie entre ciel et terre, que nous pourrons laisser Jésus faire son offre de salut à travers nos petites vies. Que le Seigneur nous renouvelle, nous fortifie dans cette belle mission du témoignage. Elle a la saveur de la vie éternelle, pour ceux qui nous entourent et pour nous-mêmes aussi. Je vais prier. Seigneur, je te loue et je te bénis pour cette rencontre avec Nathanaël qui nous encourage, qui m'encourage dans toutes ces discussions, dans toutes ces réflexions, où parfois j'ai eu l'impression que, bien, il ne se passait rien. Seigneur, je sais que derrière les témoignages, derrière ces moments où on peut être découragé, toi, tu es à l'œuvre et tu agis bien au-delà de ce que moi je peux penser ou imaginer. Seigneur, je te prie que dans nos vies, Seigneur, tes réponses puissent être de plus en plus convaincantes, de plus en plus profondes, pour qu'elles puissent rayonner devant ceux et celles qui m'entourent. Seigneur, je te prie que je puisse veiller sur ces occasions que tu me donnes, de pouvoir dire à ceux qui sont autour de moi, viens et vois par toi-même. Seigneur, je te prie que ton Église, tes enfants, puissent être de plus en plus lumière et sel sur cette terre. Seigneur, merci parce que tu nous associes à ta mission. Seigneur, merci parce que tu nous édifies à travers ta mission. Et Seigneur, nous voulons persévérer et aller de l'avant dans cette partie de notre vision, être une Église qui rayonne. En ton nom, Seigneur. Amen.